affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons effectuer une plongée dans l'école des chartes et son histoire. L'école des chartes qui est, comme chacun le sait, l'une des institutions de notre pays. Nous ne le faisons pas par goût des institutions ou par révérence, mais parce que l'école des chartes est vivante, bien vivante. Et si elle fait partie du patrimoine de notre pays, elle est aussi la preuve que le patrimoine est justement quelque chose de dynamique, quelque chose qui se renouvelle sans cesse. Et c'est en tout cas ce qu'a démontré un récent colloque organisé par l'École des Chartes en lien et à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres sur le thème « L'histoire en mutation ». L'école des Chartes est donc bien dans un processus de renouvellement permanent et c'est ce que nous allons voir avec nos invités, les mieux placés pour en parler puisque nous avons la chance d'accueillir dans nos studios, la chance et l'honneur d'accueillir dans nos studios Jean-Michel Legnaud, directeur de l'École des Chartes, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, mais également Michel Pastoureau, directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études et chartiste, ainsi que, c'est la puissance invitante en quelque sorte, Michel Zinc, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles lettres et professeur au Collège de France. Michel Zinc, c'est vers vous que je me tourne en premier, si vous le voulez bien, pour nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à accueillir ce colloque à l'Académie des inscriptions et belles lettres.
Ah, il était tout naturel que l'Académie des inscriptions et belles lettres accueille ce grand colloque qui est organisé, monsieur le directeur nous le dira dans un instant, à l'occasion du déménagement et de l'emménagement de l'École des Chartes. Cela était tout à fait naturel parce que les liens entre l'École des Chartes et l'Académie des inscriptions et belles lettres sont extrêmement étroits, institutionnels, officiels, depuis la création de l'École des Chartes. Il y a toute une série de textes qui spécifient et qui instituent ces liens. Et le nombre de chartistes à être encore membres de l'Académie des inscriptions et belles lettres est considérable, et d'autant plus considérable que le domaine de l'École des chartes, l'histoire nationale, dans son étude érudite et l'étude des sources, ne représente qu'un des domaines de cette académie qui s'occupe de l'Antiquité classique, de l'orientalisme, des différentes civilisations du monde, et aussi de l'histoire, de la philologie et de l'histoire de la pensée. Dû au Moyen-Âge et maintenant à l'époque moderne. Donc l'École des Chartes, qui correspond à un tiers à peu près des activités de l'Académie, occupe en fait une place énorme. Hein. Et si l'on faisait on dressait la liste des chartistes et des chartistes illustres qui ont siégé dans les fauteuils de cette Académie, eh bien, nous y passerions toute l'émission. Plus les personnages de fiction qui sont à la fois chartistes et membres de l'Institut à l'Académie des inscriptions et belles lettres.
Quel personnage de fiction ?
Eh bien, c'est toujours mon dada, hein. Sylvestre Bonnard, le héros du roman d'Anatole France, Le crime de Sylvestre Bonnard, membre de l'Institut, ce n'est pas tout à fait un vrai crime, et Sylvestre Bonnard est un vieux chartiste qui poursuit d'abord un manuscrit d'une traduction française de la Légende dorée, puis s'occupe de sa pupille, réfléchit son époque, l'évolution de l'École des Chartes, l'érudition, le savoir et l'imagination, s'est démêlé avec sa bonne et avec son chat, la tentative d'une vieille demoiselle pour l'épouser, et c'est un relais découverte qu'il fait pendant les travaux de l'église Saint-Germain-des-Prés, où il découvre la pierre tombale du clerc Jean tout mouillé, et tout cela fait un roman absolument délicieux que je recommande à chacun de lire et qui permet de se familiariser aussi bien avec l'École des Chartes qu'avec l'Académie des inscriptions et belles lettres. belles-lettres.
Alors, au-delà des membres, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui sont chartistes, on peut d'ailleurs citer que les promotions de chartistes sont, si je ne me trompe pas, proclamées chaque année au sein de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
J'oubliais l'essentiel. Non, effectivement, lors de notre séance annuelle solennelle sous la coupole, à la fin du palmarès des prix de l'Académie, on énumère la liste des chartistes de la dernière promotion, après quoi la promotion entière et son directeur se font photographier avec le secrétaire perpétuel en habit vert, épais, éventuellement bicorne, et tout ça est très beau.
Donc au-delà des affinités électives, les liens sont quasi institutionnels.
Ils sont institutionnels. On précise depuis le début que dans les commissions, les comités de l'école doivent siéger des membres de l'Académie. Et actuellement, moi-même, je siège au conseil scientifique avec des confrères. Il y en a d'autres au conseil d'administration de l'école. Les liens sont constants.
Donc au-delà de ces liens, qu'il est toujours bon de célébrer, de rappeler et d'entretenir, le colloque avait un autre objet. Il s'agissait donc d'étudier la façon dont l'École nationale des chartes se coule, envisage et relève les défis d'une histoire en mutation. Pouvez-vous nous présenter ces enjeux, monsieur Legnaud ?
Oui, en effet, à la fin du XIXe siècle, l'école s'était installée à la Sorbonne. Et elle a parcouru tout le spectre de l'historiographie universitaire et qui a été conduite en France et à l'étranger. Et au début du troisième millénaire, elle s'installe de l'autre côté de la Seine, dans un bâtiment nouveau qui vient d'être inauguré par le président de la République. Et donc il a été jugé par nous tous important de faire le point sur tout ce qui s'était passé au cours de ce siècle dans l'entourage, dans le compagnonnage de la Sorbonne, et de mettre en évidence quel avait pu être l'apport de l'école à l'historiographie française. Je ne dis pas à l'historiographie de la France, parce que les chartistes se sont intéressés, bien évidemment, par priorité à la France, puisque c'était la mission qui était confiée à l'école, mais ils sont allés bien au-delà. On compte des arabophones, des arabisans, des sinologues, de quelques africanistes. L'école est allée très largement au-delà. Mais grosso modo, ce que l'école a porté, c'est l'historiographie européenne, l'historiographie amérindienne aussi. Et il fallait faire le point dans ce contexte qui a vécu des quantités de bouleversements en historiographie. L'irruption des sciences sociales en relation avec l'histoire, l'irruption du quantitatif, maintenant les technologies numériques, bientôt l'information nativement numérique, il fallait parler de tout ça.
Alors précisément, bon, je pense qu'une bonne méthode peut-être de voir les uns après les autres ces enjeux, mais commençons par le bilan de deux siècles d'existence, de recherche et d'enseignement de l'École des Chartes. Qui veut répondre à cette question ? Monsieur Pastoureau, notre grand témoin.
Le bilan est extrêmement positif. L'École des Chartes a montré surtout sa polyvalence, aussi bien dans les domaines de l'histoire et de la philologie qu'au-delà, du côté de la vie politique, du côté de la création littéraire. L'École des Chartes compte un prix Nobel, Roger Martin Dugard, en 1913, si je me souviens bien, ou peut-être un peu plus récemment. Et elle a, si on prend la liste des chartistes depuis le début de l'école, 1821, on s'apercevra qu'ils ont exercé des professions et des activités extrêmement variées. Et ça, c'est tout à l'honneur de l'école. Et ça n'a pas disparu. Les jeunes chartistes qui sortent chaque année de cette institution se dirigent aujourd'hui encore vers des professions variées, des activités de toutes sortes, même dans les années où les vaches sont maigres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de postes pour tous les sortants. Et eh bien ceux qui restent sur le carreau, si je puis dire, prennent une autre voie pendant quelque temps et passent une agrégation ou désagrégation, même pour certains. Cela est tout à l'honneur de l'école, de montrer cette polyvalence.
Oui, vous disiez pas assez de postes à pourvoir, parce que peut-être qu'on oublie l'essentiel pour ceux qui ne connaîtraient pas l'École des Chartes. Elle a initialement une vocation, c'est de préparer des gens à un métier spécifique. Est-ce que vous pouvez nous repréciser.
C'est la mission, première de l'école, c'est pourquoi elle a été créée en quelque sorte, c'est-à-dire d'assurer les modalités de conservation, de préservation, de mise en valeur aussi, à destination du public, des sources qui constituent le patrimoine, sources écrites, sources archéologiques, sources artistiques également. Néanmoins, de ce point de vue, l'école, évidemment, est conduite à répondre aux nécessités qui sont celles du budget de l'État dans le domaine des archives, dans le domaine du livre, dans les autres domaines de la conservation. Néanmoins, l'école ne forme pas qu'à cela, heureusement. Elle forme aussi des chercheurs qui exercent une mission à part entière de la recherche. Je ne dis pas qu'un archiviste ne soit pas un chercheur, mais un archiviste fait bien d'autres choses. Il est aussi administrateur, il est aussi en lien avec le public. Il n'a pas une fonction spécifique de recherche. Les besoins qui s'offrent à l'école des Chartes sont beaucoup plus larges que les moyens en emploi qu'on lui offre.
Un problème qui ne concerne pas, hélas, que l'école des Chartes.
Certainement.
Vous avez parlé de l'importance des sources. Je crois que c'est Jacques Le Goff, si je ne me trompe pas, il disait un historien, c'est quelqu'un qui travaille sur les sources. Quelle est la singularité, au regard de cette définition de l'école des Chartes par rapport à d'autres formations historiennes ?
D'abord, il est difficile de ne pas travailler sur les sources, sinon on se met à inventer. D'autre part, les chartistes se caractérisent par le fait qu'ils sont très près des sources. Ils lisent les sources, d'abord ils les conservent, ils les transcrivent, ils les analysent, ils les lisent, et ils les utilisent directement. L'une des données de l'intellectualité chartiste, c'est de ne pas faire du travail de seconde main. Bon. Ceci étant, il faut savoir aller au-delà aussi. C'est-à-dire, la source peut emprisonner. Il faut essayer de définir des problématiques. Il faut essayer de concevoir, d'intégrer le travail sur la source dans une réflexion beaucoup plus large. Ceci étant, l'historiographie chartiste, vous avez raison, est intimement liée à la source, parce qu'elle forme à des professions qui conservent ces sources.
Michel Zinck voulait ajouter quelque chose.
Oui, je vois d'autant mieux la supériorité des chartistes que je suis moi-même médiéviste, donc à côté d'eux, mais que moi je ne suis pas chartiste. Je suis normalien, donc un esprit léger. J'ai essayé de rattraper le retard, mais je n'ai jamais réussi, n'est-ce pas ? Je me suis mis à l'école des chartistes, mais toujours un petit peu en vain. Et comme le disait très bien monsieur le directeur, les chartistes travaillent uniquement ne travaillent que sur les sources, n'envisagent pas qu'on puisse travailler autrement que sur les sources. C'est leur première supériorité. Mais la seconde aussi, c'est que l'évolution du travail de l'historien fait que ce type de travail, qui a pu à un moment paraître un peu borné dans l'érudition, un peu étroit, un peu poussiéreux, a facilité leur passage aux méthodes les plus actuelles et les plus nouvelles de l'histoire. Et mon voisin Michel Pastoureau en est la preuve vivante. Parce que quand l'histoire a intégré l'anthropologie, et maintenant l'anthropologie historique est au cœur de la méthode historique, à ce moment-là, elle est devenue une histoire largement matérielle, sensible aux éléments matériels laissés par le passé, à leur exploitation, à leur interprétation. Et là, la supériorité des méthodes chartistes est apparue entre les mains de ceux qui savaient à la fois les utiliser et les dépasser, ce qui est le cas de Michel Pastoureau, ce qui est le cas d'un grand nombre des historiens chartistes aujourd'hui.
Alors, en même temps, c'est pas tout à fait dans l'esprit du temps, hein, si vous me permettez. D'ailleurs, je suis pas le seul à le dire, je me fais l'interprète de l'un des intervenants, Werner Paravicini, si je ne me trompe pas, qui avait des mots assez forts sur le côté un petit peu incongru dans la société contemporaine, de gens qui se plongent dans le savoir, l'érudition avec patience. Il les appelait les laboureurs des ténèbres. Il disait à un moment que le chercheur isolé dans son étude était désormais aussi démodé que le prêtre dans son confessionnal.
Oui, parce alors
qu'il exagère.
On voit bien ce qu'il veut dire. Mais d'abord, Werner Paravicini, qui est un immense savant allemand, a tendance à être un peu laudator temporis acti, regretter le temps passé. Et d'autre part, il est injuste en ce sens que, effectivement, il ne suffit pas de travailler tout seul dans son cabinet. Il faut ensuite rendre ce qu'on a trouvé intéressant pour ses contemporains. C'est pas seulement aux contemporains de venir de frapper à la porte du chartiste et de voir comme il est bien dans sa poussière. C'est au chartiste de montrer en quoi ça peut être intéressant. Et cela, encore une fois, beaucoup des historiens chartistes savent le faire, réunissant la tradition d'érudition de cette école et l'élan intellectuel, on peut le dire, qui a été surtout unique dans les décennies passées, de l'école historique française, particulièrement dans le domaine médiéval, qui est le noyau dur, en somme, des études chartistes. Mais enfin, peut-être que je serai démenti par...
Non, pas du tout. La recherche en histoire, c'est la rencontre entre une documentation et une problématique. Pendant des décennies, l'idée était courante qu'à l'école des chartes, on donnait la priorité à la documentation et dans d'autres institutions, la priorité à la problématique. Et puis, les réflexions, l'évolution de la pensée, les façons de travailler aussi ont changé. Et aujourd'hui, il n'y a plus de priorité. Les deux choses sont sur le même plan. La documentation, les problèmes que l'on se pose, et les chartistes aussi pratiquent une histoire-problème, de même que ceux qui autrefois pratiquaient l'histoire-problème donnent parfois priorité aux sources. Aujourd'hui, les sources étant devenues en elles-mêmes des problèmes, et tout est document d'histoire, les barrières sont tombées entre les sciences sociales et même entre les sciences humaines, et tout est possible, ce qui rend le champ des réflexions et des enquêtes immense. Et par là même, ça donne aux chartistes un certain avantage sur d'autres formations. Le chartiste est à l'aise avec des catégories de documents très variées. Il a l'habitude de travailler et sur des textes et sur des sources archéologiques et maintenant sur des images. Il est spécialisé, certes, mais sa formation lui a donné des capacités pour s'aventurer sur un très grand nombre de terrains documentaires.
Justement, l'un des défis qui était évoqué, je crois que c'est l'extension sans fin du domaine des sources.
Oui, et en particulier ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est-à-dire l'explosion des sources nativement numériques, qui pose plusieurs types de problèmes. D'abord, les modalités de conservation sur une longue durée. Ensuite, la confidentialité de cette information aussi. Il faut quand même savoir que tous nos mails, si on est sur certains types de serveurs, sont enregistrés dans une gigantesque mémoire et peuvent être consultés par autrui. Bon, ça, il y a ce problème de confidentialité et de propriété. Et dans un troisième temps, il y a le problème de l'exploitation de ces informations une fois devenues sources. Alors on est un peu confronté à l'historien. C'est un peu quelque sorte, je dirais, pour faire une mauvaise comparaison, un policier à l'époque de la DDR, hein, il s'intéresse à tout. Hein, la vie des autres, ça le concerne intégralement. Alors plus il aura de moyens à sa disposition, l'image de l'histoire totale grâce à la conservation totale, évidemment, lui sourit beaucoup. À ceci près qu'il risque d'être complètement noyé par les sources en question si elles ne sont pas exploitables. Et actuellement, il est clair qu'il y a certainement des modalités pour interroger ces gigantesques masses de sources qu'on appelle les big data, mais les modalités d'interrogation ne sont pas encore passées au stade de l'historien, c'est-à-dire d'un assez grand public. Je mettrai à part les problèmes de la défense, là, naturellement, c'est se débrouiller avec ça. Ce n'est pas encore arrivé au stade universitaire. Et ça fait partie des enjeux auxquelles devront répondre les chartistes, les conservateurs d'archives, puis aussi d'une autre façon les conservateurs des bibliothèques. Comment faciliter pour l'historien dans 50 ans, faciliter les méthodes d'approche d'un ensemble de sources gigantesques, peu pérennes techniquement parlant, et posant des problèmes de confidentialité de toute manière, parce que ça, beaucoup concerneront la vie privée.
Et c'est là que, si je peux résumer, auparavant, pour certaines périodes historiques plus lointaines, le problème c'était la rareté des documents, et aujourd'hui c'est plutôt leur profusion.
On peut dire cela, et je veux dire que ça a toujours été une des... Je fais une taquinerie à l'encontre des conservateurs d'archives. La hantise des conservateurs d'archives, c'était plutôt le trop-plein de sources que le pas assez. Le conservateur d'archives trie allègrement, comme le conservateur de bibliothèque fait du désherbage, comme il dit dans son vocabulaire poétique. Et là, dans le domaine du nativement numérique, la question ne se posera pas dans les mêmes termes.
Comment prépare-t-on les nouvelles générations de chercheurs et d'archivistes à cet enjeu ? Est-ce qu'il y a déjà des pistes ?
Déjà, pour le moment, on les forme aux technologies numériques. Ce n'est pas exactement la réponse à la question, mais on les forme aux technologies numériques appliquées aux humanités. Comment utiliser des sources écrites ou des sources figurées de façon renouvelée grâce aux techniques que propose l'informatique ? Après, il y aura ce second problème, nous sommes en train d'y réfléchir, qui est de savoir, en lisant avec les archives nationales, et puis maintenant dans le cadre de notre commu PSL, il faudrait que nous essayions, c'est-à-dire en rapport avec les scientifiques, essayons d'interroger les scientifiques pour qu'ils nous donnent des moyens de répondre à ces questions que nous nous posons.
Dans cette extension du domaine des archives, en quelque sorte. Il n'y a peut-être pas seulement, là on a abordé des archives d'un nouveau type de support différent, mais il y a aussi peut-être, et l'essentiel est peut-être là, c'est le fait que maintenant tout fait histoire, maintenant, enfin depuis quelques décennies, tout fait histoire, c'est-à-dire que la vie quotidienne c'est de l'histoire, les mœurs c'est de l'histoire, la manière de consommer c'est de l'histoire, ça aussi ça contribue peut-être à l'extension générale, tout objet devient en lui-même porteur d'une histoire, et n'est pas seulement un médium, il est l'histoire.
Oui, je pense que le meilleur symbole de ce que vous dites, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours au mémorial des victimes. Les archives de Paris sont venues récupérer le plus tôt possible qu'elles ont pu ces documents.
Déposer place de la République.
Les transformant en pièces d'archives pour demain.
Là, on est peut-être déjà... on est aussi dans le domaine quasiment de la relique, non ?
Il y a de la relique, mais aussi il y a cette historiographie que les Allemands appellent Alltagsgeschichte, c'est-à-dire l'histoire, c'est pas seulement l'histoire de la vie quotidienne, c'est l'histoire de tout ce qui n'est pas habituellement considéré comme de l'histoire. Enfin, l'un des livres majeurs en la matière, c'est le Sabotier Pinago d'Alain Corbin, comment faire l'histoire d'un personnage qui n'en a pas.
Est-ce que dans cet événement, il n'y a pas aussi... Excusez-moi, non, je vous laisse réagir, je poserai mes questions ensuite.
Non, pas du tout, mais la différence, c'est que pour les époques du passé, il faut toute l'ingéniosité de l'historien et sa capacité à pister des éléments dont on ne percevait pas l'intérêt pour faire jaillir, en somme, des sources sur ce domaine du quotidien, sur le domaine qui n'est pas considéré comme de l'histoire ou qui n'était pas considéré comme pouvant retenir l'attention à l'époque même. Tandis que maintenant, où au contraire, tout retient l'attention et d'une certaine façon, surtout le quotidien, où la culture, c'est si on prend du café au lait ou du chocolat le matin, et non pas si on sait le grec ou le latin, la relation aux sources et le travail de l'historien, me semble-t-il, change du tout au tout. L'époque où, justement, Jacques Le Goff disait « Moi, je suis médiéviste parce que pour l'Antiquité, non, il n'y a quand même pas assez de sources. Pour l'époque moderne, non, il y en a quand même trop. » Tandis que le Moyen-Âge, c'est bien, il y a juste ce qu'il faut.
Écoutez, nous avons reçu Jean Guilaine il y a moins de 15 jours qui nous expliquait que le néolithique, ça devait être de l'histoire.
Ah oui, mais Jean Guilaine défend le néolithique. Il faisait ses visites au Collège de France en disant oui, le paléolithique, c'est nul, l'époque historique, c'est nul, mais le néolithique, c'est comme ça.
En tout cas, il disait que c'était
de
l'histoire.
C'est un défenseur de son époque extraordinaire, Guilaine.
Parce que je reviens sur les archives de Paris venant... récupérer donc les messages déposés place de la République en hommage aux victimes des récents attentats. Est-ce que ça n'illustre pas la place singulière qui est celle de l'historien aujourd'hui en général, mais singulièrement de l'historien chartiste, qui se trouve à une époque où on est à la fois dans une crise, je pense, dramatique de la transmission, et où en même temps, et de façon un peu paradoxale, du coup, il y a une soif incroyable de vouloir faire histoire. Voilà, je m'exprime peut-être mal, mais de souhaiter être dans un instant que l'on veut historique pour refaire corps, pour réexister, pouvoir se situer et trouver des repères.
Le phénomène n'est pas tout à fait nouveau. Je penserais par exemple aux frères Tuilier et Jacques Aigui collationnant pendant la guerre tous les tracts et affiches nazis pour en faire une collection qu'ils ont ensuite donnée aux archives de la Nièvre, ou encore à tout ce qui s'est fait à la Bibliothèque nationale juste après 1968 pour conserver tous les tracts, les papiers, les affiches de façon à pouvoir documenter l'événement. Donc c'est quand même pas tout à fait un phénomène nouveau. Là, évidemment, l'événement est entouré de passionnels, mais 68 aussi. Je pense que là, sur ce quoi vous attirez l'attention sur le problème de la transmission. Là, effectivement, nous sommes dans une situation qui est étrange de ce point de vue-là. C'est-à-dire quand même, nous entendons beaucoup de discours, et nous voyons beaucoup d'attitudes, et nous voyons beaucoup de transformations sociologiques aussi, qui posent cruellement cette question de la transmission. Dans le domaine de l'architecture, dans le domaine du monumental, la question se pose de la même façon. Les destructions impliquent immédiatement une volonté de conserver au maximum. Et là, au moment où on sent que la société évolue très vite, il est certain qu'il y a des réactions, le mot n'est pas très bon, enfin des comportements qui font qu'on cherche absolument à préserver ce qui est en train de filer entre les doigts. Oui.
Est-ce que justement, dans ce cadre, la méthode, la distance, mais aussi la passion, simultanément, de l'historien, n'est pas propre à apporter une réponse à cet écartèlement qui traverse notre société? En resituant les gens.
Oui, moi je dirais que c'est très...
Mais sans délire idéologique, si je puis dire.
Il faut effectivement de la méthode et de la science. Il faut aussi de la passion, parce que cette passion, elle va disparaître au fur et à mesure que s'instaure la méthode et la science. Vous voyez, vous connaissez dans le passage dans les Cosaques de Tolstoï qui dit que dès qu'un sentiment commence à venir et qu'on commence à trouver le mot pour exprimer le sentiment s'évanouit. Bon, c'est un peu pareil en histoire, c'est difficile d'arriver à conserver l'émotion à partir du moment où on la transcrit en discours scientifique.
Il faut pas mal d'abnégation aussi, ce sont souvent des tâches ingrates, d'autant que le présent est tellement éphémère et le futur incertain, tout est passé très rapidement. Et l'historien voit ses tâches multipliées, le temps s'accélérer. Mais en même temps, il y a aussi des choses qui ne changent pas, auxquelles l'historien doit être attentif. On l'oublie par les temps qui courent et les médias donnent de la société une image en perpétuelle mutation. Mais si on réfléchit un peu, on s'aperçoit qu'il y a des permanences quand même dans la vie quotidienne, dans les institutions, dans les modes de pensée, de sensibilité. Il faut travailler sur les deux tableaux. Parfois un peu moins effrayé de ce que l'on oublie, ces permanences et cette histoire longue. Je m'intéresse à la vie quotidienne et je sais que dans les rythmes de la vie quotidienne, ça va pas aussi vite qu'on voudrait nous le faire croire. L'écart est toujours très grand entre ce qui concerne les domaines de pointe et puis ce qui concerne la vie du commun des mortels.
Dans cette balance entre l'attention à ce qui change, ce qui est peut-être le métier de l'historien, regarder ce qui change, les évolutions, et puis l'attention aux permanences, qui est peut-être plutôt le trait d'esprit des sociologues. Comment se fait la balance aujourd'hui ?
Il me semble que aujourd'hui, de même que tout est archive, tout le monde se sent historien. Et tout le monde a le sentiment qu'il faut garder, on demande de retrouver les lettres des arrière-grands-pères pendant la guerre de 14, donc tout le monde sait qu'il faut conserver les objets usuels de la grand-mère, et ceci et cela. Il y a un envahissement de l'histoire, de même que maintenant, tout patient d'un psychanalyste a lu Freud, donc sait ce que va lui dire le psychanalyste, de même que tout patient d'un médecin a regardé ce qu'il avait sur Wikipédia, donc a l'impression qu'il en sait autant que le médecin, de même, tout le monde se considère comme historien. Marquez déjà, au XIVe siècle, les capitaines de routier venaient trouver Froissart et lui disaient « Vous qui êtes historien, ça vous intéressera peut-être de savoir ce que j'ai fait à la bataille machin. »
On le voit aujourd'hui avec les petits musées qui se multiplient ici ou là et qui se spécialisent dans des objets de conservation tout à fait inattendus et on peut se demander parfois si c'est bien utile de les conserver, de les présenter et de les glorifier.
Et là, je pense que de ce point de vue-là, la vague est assez passée. Ça a marqué la Grande-Bretagne dans les années 65-75. La France, à partir des années 75-90 à peu près. Mais depuis, le boom muséographique s'est considérablement affaibli. Mais je pense qu'il y aura quelque chose qui, de toute façon, va supprimer cette espèce de passion pour les sources. C'est la sénescence des technologies. Vous prenez les photographies. Bon, on a des photographies qui datent de la fin du 19e siècle, à peu près dans toutes les familles, y compris les plus modestes des familles. C'est les photos, les photographies, des mariages ou des portraits. Bon. Aujourd'hui, les gens prennent des quantités de photos, ils les classent numériques, ils les classent amoureusement dans leur ordinateur. Mais le jour où JPEG va devenir sénescent, qu'est-ce qui va se produire? Alors, les institutions auront les moyens de trouver des dispositifs qui permettront de régénérer tout cela. Mais les privés, qu'est-ce qui va se produire? J'ai grand peur que tout d'un coup, ils vont devenir amnésiques au point de vue de leur documentation photographique. Et toute une mémoire familiale est susceptible de disparaître. Donc, ce n'est pas si simple.
Oui, parce que c'est vrai qu'ils s'attachent à cette idée numérique que c'est plus résilient que du papier. Alors, ce que vous nous expliquez que c'est le contraire. Comment les professionnels que vous êtes se préparent à cet enjeu? Le country va se faire de lui-même et c'est une bonne nouvelle
Problème que les archives découvrent. Il y a 30 ans, j'entendais les archivistes dire c'est formidable, on va pouvoir tout numériser, comme ça on aura réglé nos problèmes de place, on n'aura plus besoin de dépôts à ranger. Et puis en fait, c'est plus possible. Déjà, on comprenait très bien que si ça allait fonctionner comme ça, il faudrait bientôt inventer tout un musée de matériel qui permettrait des lectures successives. Donc on invente dans les grandes institutions, heureusement, on pensait pour les banques ou la chambre des notaires, s'il n'y avait pas ça, on invente des dispositifs qui permettent de garantir la durée sur une longue période de régénérer toutes ces informations. Donc ça, c'est possible. Les archivistes sont confrontés à cela. Moi, la question que je me pose, c'est au niveau des privés. En tant que les privés producteurs de leurs propres archives, je pense que beaucoup de choses vont disparaître.
Elles ont déjà disparu pour nous. Là, enfin, pour quelqu'un de mon âge, pour le début de ma carrière, bon, j'aime pas garder mes archives, j'aime pas trop laisser de traces, mais enfin, j'ai tout de même les manuscrits, la dactylographie de mes premiers articles. Et puis maintenant, depuis quelques années, je les ai sur mon ordinateur, mais toute la période disquette, et même dans l'ordinateur, de temps en temps, il y a des documents que je ne peux pas ouvrir, il y a des tas de choses qui ont disparu. Bon, je suis à l'automne de mon âge, sans la plus grande importance. Mais enfin, j'aurais fait des choses plus importantes que de m'occuper de poésie du Moyen-Âge. Ça pourrait être ennuyeux. Alors,
vous évoquiez, Michel Zinc, le fait qu'aujourd'hui, tout le monde se sent historien, tout le monde se sent médecin. Enfin bref, c'est le... J'ose pas utiliser le mot d'expert, parce qu'il est lui-même complètement dévalué. Enfin, tout le monde pense qu'il peut s'attribuer les mérites de ceux dont c'est le métier. Voilà. L'un des fils rouges de ce colloque, c'était de rappeler que l'histoire et la pratique de l'histoire, c'est un métier. Est-ce que, et notamment, sous le spectre de sa pratique chartiste, c'est une spécialité, ce sont des pratiques spécifiques avec des compétences spécifiques. Sont-elles bien identifiées, notamment par les pouvoirs publics? J'entends dire ici ou là que les moyens attribués, l'importance donnée à ces formations n'est pas toujours à la hauteur des enjeux.
C'est certain que, vu l'ampleur, vu le poids du patrimoine en France, les pouvoirs publics ne mettront jamais assez de moyens à la disposition de la mémoire. Encore faudrait-il trouver des arguments pour le faire. Au XIXe siècle, c'était facile, puisqu'on disait « la mémoire, c'est ce qui va construire la nation ». Donc il y avait une instrumentalisation politique de tout ce qui était patrimonial. Ensuite, époque positiviste, la mémoire se construit en science. Progressivement, elle s'est un peu coupée de sa base sociologique. Et du coup, finalement, la puissance publique y a moins trouvé d'intérêt, il y avait moins de répondance sociale. Il faut absolument faire la démonstration aujourd'hui. C'est une nécessité pour l'érudit, pour le savant, pour le conservateur, que son travail répond, d'ailleurs c'est le problème des sciences humaines en général, hein, que tout cela a une utilité sociale évidente, et il faut en fournir la preuve.
Mais il y a quelque chose qui m'a frappé en tant que membre du conseil scientifique de cette école, je parle sous le contrôle de son directeur, je me trompe peut-être, c'est que d'un côté, ces jeunes gens reçoivent une formation admirable dans des disciplines spécialisées qu'ils sont les seuls à maîtriser et qui permettent seuls, encore une fois, d'étudier sérieusement les archives du passé. Et puis ensuite, il faut bien qu'ils vivent, donc ils se présentent au concours d'écoles d'application, et ces écoles d'application sont toutes, quel que soit leur domaine, des espèces de petites ENA spécialisées, où on leur demande de savoir administrer des bibliothèques, ou ceci ou cela, et à ce moment-là, c'est comme si on leur demandait justement d'avoir les capacités généralistes d'un étudiant de Sciences Po, et qu'on se désintéressait complètement ou largement de cette compétence qui leur est propre, que personne d'autre ne possède, et qui, si elle disparaît, enterre avec elle tout le passé.
Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, j'ai l'impression.
Oui, c'est une ambiguïté de la carrière chartiste, cette formation qui prend du temps, pour laquelle l'État engage beaucoup d'argent, de jeunes savants, qu'ensuite ce même État emploie à tout autre chose. On a parfois une impression de gâchis, et moi qui suis assez près des élèves depuis si longtemps, qui les suit, qui les guide, qui les juge, j'entends toujours le même refrain, à savoir que les années d'école étaient des années fructueuses, formatrices, on en garde un bon souvenir. Et puis la suite, c'est un peu plus décevant dans ces écoles d'application où, disent-ils, il y a beaucoup d'heures creuses et de frimes. Et puis l'arrivée dans le monde professionnel où, le plus souvent, on a une activité qui n'a aucun rapport avec le parcours qu'on a suivi. Tel ou tel spécialiste de philologie médiévale se retrouve dans une bibliothèque universitaire à la section chimie, etc. Ça n'est pas une plaisanterie, hein. Ce sont des choses qui arrivent extrêmement fréquemment. Et le but du jeune chartiste, c'est peu à peu d'essayer de se rapprocher de ce qui faisait ses curiosités et ses spécialités. Et ça n'est pas neuf, c'est quelque chose qui est assez ancien et qui vient de cette double casquette, au fond, que possède le chartiste, celle d'un chercheur, d'un savant dans un domaine particulier, et puis celle d'un conservateur qui, au fil des décennies, ne conserve plus, mais gère, administre, noue des relations parfois difficiles avec les maires, avec les présidents des conseils départementaux ou régionaux aujourd'hui. Dans les pays voisins, ça se passe assez différemment.
Ah bon, pourquoi ?
Je voudrais apporter peut-être deux nuances à ce que vient de dire Michel Pastoureau. La première, c'est que les écoles d'application s'améliorent de plus en plus. L'Institut national du patrimoine ou l'ANSIB font de réels efforts pour améliorer leur cycle d'études. Ensuite, donc je me sens assez, d'une certaine façon assez solidaire de ces écoles qui sont les débouchés de l'école des chartes. Ensuite, ce problème de l'école des chartes, il n'est pas propre à l'école des chartes. C'est le propre d'un certain nombre de grandes écoles en France. Vous prenez l'école polytechnique. Elle recrute les meilleurs mathématiciens d'une génération. Elle en envoie un nombre important se former à l'école des ponts et chaussées en forme d'école d'application. Et dans un troisième temps, ces X-ponts vont faire de l'administration. Ils ne construiront pas de ponts, ils ne feront pas d'ouvrages d'art pour la plupart.
Dans le meilleur des cas, si moi ils finissent la City à faire de la spéculation.
Oui, beaucoup font de la très haute administration. Mais ils feront cette haute administration à leur manière d'ailleurs, en tant qu'anciens X-ponts. Leur méthode de travail étant assez différente des anciens élèves de l'école d'administration. Donc c'est un problème général propre à un certain nombre de grandes écoles qui ont pour mission de répondre à des missions de service public. Bon. L'école des Chartes, évidemment, forme des savants et ensuite risque de former des administrateurs du patrimoine. Mais que dirait-on si on mettait à la tête de ces administrations du patrimoine des gens qui ne seraient qu'administrateurs et pas du tout des savants? On sera encore plus mécontents. Il vaut mieux avoir affaire à des savants qui deviennent des administrateurs qu'à des administrateurs qui essaient de jouer aux savants. Ça ne marche pas, ça.
Mais pour ma part, ce qui me frappait, ce n'est pas que les chartistes fassent ensuite de l'administration. Il me paraît tout à fait naturel qu'ensuite, dans leur métier, tout à fait admissible, comme vous le dites, ça se produit avec les X, ça se produit partout, ils n'exercent pas la compétence qu'ils avaient acquise au départ. Ce qui m'avait un petit peu gêné, c'est que dans certains cas, j'avais l'impression que pour les recruter dans ces écoles, on ne tenait pas assez compte de cette compétence même. On entre à l'X parce qu'on est un bon mathématicien, on va au pont parce qu'on sort dans un bon rang de l'X. Et après, on fait tout à fait autre chose. Mais si, à l'entrée à l'X, sous prétexte que ensuite on fera de l'administration, on dit vos mathématiques, ça ne nous intéresse pas, on va vous demander à 19 ans comment on négocie avec les syndicats dans tel cas, je trouverais ça choquant. C'est plutôt cela.
Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. C'est-à-dire qu'effectivement, il faudrait quand même s'entendre. D'abord, il y a des grandes écoles qui n'instaurent pas de filtre entre la fin de leur scolarité et les écoles d'application. Ce n'est pas le cas pour ce qui concerne nos deux écoles d'application à nous. Il y a effectivement des filtres. On peut s'interroger sur la pertinence de ces filtres, en effet. Rien ne prouve que les filtres soient toujours fondés. Alors évidemment, tout le monde s'abrite derrière la souveraineté des jurys, mais c'est pas une raison fondamentale. Il y a les autorités qui constituent les jurys et qui choisissent les jurés en fonction de leurs compétences propres. Il est certain que si on interrogeait les chartistes sur leur culture générale en mathématiques pour entrer à l'école dans une des écoles d'application, il est certain qu'il y aurait une hécatombe sérieuse parce que tout le monde n'aurait pas une culture d'histoire des sciences. Ça, c'est un problème. Ou si on faisait un concours de cordes à sauter, je l'ai dit à plusieurs reprises. Là, il y a vraiment effectivement un problème d'adéquation. Et c'est vrai qu'il y a des secteurs de la conservation qui ont tendance à considérer qu'ils n'ont pas besoin de patrimoine. Moi, j'ai entendu de très hauts responsables dans la conservation des bibliothèques dire qu'on n'avait pas besoin d'historiens du livre ou de conservateurs du livre ancien, que c'était pas important. Bon.
C'est un peu terrifiant, ça, par contre.
Voilà, c'est très inquiétant, ça. Parce qu'il est absurde d'opposer la lecture publique ou le numérique à la conservation du livre ancien. Ce sont des dialectiques faciles, inutiles et stériles.
Les bras m'en tombent, donc je ne trouve même pas que dire en réaction à cela.
Un autre vice de ce système, école des chartes suivie d'école d'application, c'est que pour les jeunes candidats pour entrer dans ces écoles d'application, les épreuves consistent à savoir à l'avance ce qu'on est censé apprendre par la suite dans ces écoles d'application. Il y a là, ce n'est pas propre d'ailleurs aux deux écoles d'application des bouchers chartistes, mais il y a quelque chose de vicieux et qui augmente chaque année. On est candidat à un concours et on doit savoir déjà ce qu'on va apprendre une fois qu'on aura réussi ce concours. Et puis dans les métiers de la conservation et du patrimoine, il y a un vice nouveau qui est celui pour faire carrière, on est obligé de changer d'activité assez régulièrement, changer d'emploi, changer d'institution, ce qui fait que quand on est spécialiste de documents anciens, où c'est la durée qui fait que l'on devient un bon spécialiste, on est très handicapé dans sa carrière si on reste en place parce qu'on est spécialiste de manuscrits grecs que l'on refuse de changer. C'est très mal vu des autorités de tutelle et c'est un handicap dans le cursus. C'est un grand vice que les pays voisins ne connaissent pas, qui s'est installé en France depuis 20 ou 25 ans à peu près, qui ne concerne pas seulement les archives et les bibliothèques, mais aussi les musées. Il faut tourner, comme on dit. Par là même, le travail proprement savant est fait par des vacataires, parfois compétents, souvent méprisés et mal payés. Il y a quelque chose qui me semble assez nocif dans les métiers de la conservation et du patrimoine actuellement.
Ça pourrait faire un très beau sujet de thèse, essayer de trouver les racines de ces dérives. Il faudra mettre quelques vacataires sur cette question.
Les racines sont cette idée que les conservateurs sont polyvalents, ce qui n'est pas complètement faux, mais il y a quand même des domaines où c'est parce qu'on a 10, 15, 20 ans d'expérience de tel ou tel terrain documentaire que l'on est compétent, que l'on peut renseigner les lecteurs et les chercheurs, faire des publications intéressantes, etc. Nos autorités de tutelle, depuis peut-être 3 décennies, pensent le contraire et pensent qu'il faut tourner. C'est à la mode.
Oui, je crois que c'est dans l'air du temps.
C'est un vieux vice français quand même. Au XVIIIe siècle, on disait qu'il ne fallait pas mettre un militaire à la guerre ou un ecclésiastique à la feuille des bénéfices.
Oui, oui, et puis je pense qu'il y a cette idée très contemporaine. J'énonce l'idée pour que vous réagissiez, mais que ce qui lui est fluide, ce qui est mouvant, ce qui n'est pas permanent, a plus de valeur désormais que ce qui est stable. Est-ce que ce n'est pas des idées contemporaines qu'il s'agit de combattre et que peut-être, d'ailleurs,
c'est une forme de zapping. Hein, et les postes ministériels donnent l'exemple. On tourne, on met des incompétents ici ou là.
C'est-à-dire que les décideurs, comme ils n'ont pas de formation scientifique, la plupart du temps, 90% des cas, bon, c'est différent de ce qui se passait à la fin du 19e siècle, par exemple, où il y avait beaucoup de normaliens, de chartistes qui avaient des postes, ou des polytechniciens qui avaient des postes politiques. Les décideurs, n'ayant pas de compétences scientifiques ou techniques, se méfient de ceux qui en ont.
Même dans le monde de l'entreprise, désormais, avant, on recrutait les gens sur des compétences, aujourd'hui, on les recrute sur leur agilité.
Oui, mais parce qu'il y a deux pôles de l'activité intellectuelle. Hein. D'un côté, l'école des chartes, et de l'autre, je vais me faire retuer, Sciences Po. Voilà. Or, notre système d'administration, naturellement, est formé sur le modèle Sciences Po, qui n'est pas du tout le modèle d'une science profonde, mais d'une agilité intellectuelle qui permet de passer d'un sujet à l'autre.
Oui, hein. De plus en plus.
Voilà. Et donc, nous sommes gouvernés par cet état d'esprit, même dans les domaines qui exigeraient l'approfondissement des compétences.
Ceux-là même qui gouvernent se sont d'ailleurs appliqués eux-mêmes. Si on voit la réduction de la durée du temps des mandats, d'ailleurs, on peut au moins leur faire l'hommage qu'ils sont cohérents, puisque eux-mêmes ne tiennent pas en place.
On peut dire ça comme ça.
Pour quand même rassurer les futurs étudiants qui nous écoutent, ils sont nombreux, car dans l'auditorat de Canal Académie, il y a pas mal de jeunes et probablement pas mal d'un profil qui pourrait les mener à souhaiter faire une école comme l'école des chartes. Que pouvez-vous chacun leur dire pour les rassurer après ce tableau qui n'était pas toujours forcément très enthousiasmant, même si on sent que c'est le fruit de la passion que ces critiques.
Et moi je trouve que plus je vieillis, plus je trouve que les carrières de l'école et le savoir de l'école constituent une véritable aventure. Une aventure individuelle, l'aventure du savoir. Il y a toujours des choses nouvelles à découvrir. Là, je me rends compte, par exemple, combien il serait important de former des élèves à la connaissance du latin de l'époque moderne. Pourquoi ? Parce que toute la pensée de l'époque moderne s'est exprimée en latin. Et ça échappe finalement aux 9/10 des chercheurs qui ne sont pas en état de lire ces ouvrages. Donc ça, c'est une véritable l'aventure du savoir dans des domaines inédits. Il y a aussi l'aventure des carrières. même si les choses sont peut-être plus stabilisées qu'il y a une trentaine d'années, au ministère de la Culture, il y a encore des quantités d'aventures à courir. On a cité le cas du numérique. Il est évident que c'est une aventure. Lorsque les personnes qui s'occupent, par exemple, du dépôt légal des banques de données se trouvent en présence d'une véritable aventure intellectuelle. Et ça, c'est passionnant. Je ne suis pas certain que, finalement, dans beaucoup de domaines professionnels, on puisse courir à ce point d'aventure.
Michel Zinck.
Oui. Il y a, vu de l'extérieur, encore une fois, il y a dans la science particulière des chartistes une sorte de dignité qu'on ne trouve guère ailleurs, peut-être chez les mathématiciens purs. Et là encore, ma citation favorite, mais je la partage avec tout le monde, c'est dans Jean Santeuil, la page que Proust consacre à Paul Meyer, ancien directeur d'école des chartes, professeur au Collège de France, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui, par son expertise des écritures, a montré que le texte attribué, le bordereau attribué à Dreyfus, n'avait pas été écrit par lui. Et Proust dit, voilà, Paul Meyer, qui peut-être était un grand ami du ministre de la Guerre, etc., simplement parce que sa science lui enseigne la vérité, que la vérité, ce n'est pas l'écriture de Dreyfus. Et il dit, ce n'est pas l'écriture de Dreyfus. Et il faut une longue compétence pour pouvoir dire cela, un grand courage pour pouvoir le dire. Sans cette compétence, le courage n'est pas possible. Et c'est pourquoi, même si le quotidien des carrières des chartistes n'est pas toujours exaltant, mais quelle vie quotidienne, dans quelle carrière est toujours exaltant, il y a dans la compétence qu'ils acquièrent quelque chose dont vraiment ils peuvent être fiers et qui peut rendre service, et un service immense, à tout moment.
Michel Pastoureau.
Oui, moi j'ai été un chartiste, et je le suis toujours, très heureux et même très gâté. Donc je ne peux qu'inciter des jeunes gens et des jeunes femmes à se présenter au concours d'entrée à l'École des Chartes. Ils ne le regretteront pas. Et malgré tout ce que l'on a pu dire sur le caractère parfois un peu hésitant ou chaotant des carrières, un bon chartiste finit toujours par retomber sur ses pieds. Mais il y a un problème de fond plus général. En historien, je me rends compte que pendant des siècles, on faisait des études sans qu'il y ait un rapport nécessaire entre les études et l'activité ou le métier qui allait suivre. Depuis deux, trois générations, il y a cette obligation de faire s'enchaîner les études et l'activité professionnelle, d'orienter dès le départ en relation avec le nombre de postes qui seront disponibles ici ou là, et ça visse complètement le problème des études, ça limite les curiosités et les possibilités. Ça n'est pas un phénomène propre ni à l'École des Chartes, ni même aux institutions françaises, mais je crois que c'est un tournant dont personne ne parle, mais qui est extrêmement important, cette idée que priorité à la profession qui va suivre et au fait de trouver un emploi. Toutes les études sont conditionnées par les études que l'on entreprend sont conditionnées par cela. C'est une nouveauté, au fond, dans l'histoire culturelle de la vieille Europe.
Écoutez, en guide de conclusion, si j'ai bien compris, je résume votre propos. Cette formation permet de vivre des aventures, d'obtenir une grande rectitude intellectuelle et morale, mais également, par son ampleur et la colonne vertébrale qu'elle donne, d'embrasser un grand nombre de carrières, ce que je ne peux que confirmer, car dans mes fonctions, à moi, petit témoignage, il m'est arrivé de recruter pas mal de jeunes. Je travaille dans les métiers du journalisme et de la communication, métier ô combien superficiel par rapport à celui des érudits, et pourtant je n'ai jamais recruté une seule personne venant d'une école de journalisme, mais déjà plusieurs chartistes. Merci à vous.